commencer cet entretien, je voulais vous parler de YouStory, une plateforme d'auto-édition de livres 100% française, à taille humaine, créée par un auteur pour les auteurs. L'ambition de YouStory, faire émerger de nouvelles plumes en les accompagnant dans chaque étape de la création d'un livre papier, mais aussi d'un e-book ou encore d'un livre audio. Du travail sur les textes à l'impression, en passant par la publication en librairie ou encore la promotion, YouStory se charge de toutes les étapes de la vie du livre. Et c'est justement en passant par toutes ces étapes que le fondateur de YouStory a décidé de se servir de son expérience et de ses prestigieux partenaires comme Hachette pour aider d'autres auteurs, avec pour pilier une vraie proximité avec les talents, mais aussi une envie de s'imposer comme un support pour eux. C'est la raison pour laquelle YouStory a publié un guide de l'auto-édition en vente un peu partout, qui permet d'aiguiller tout un chacun dans le grand monde de l'auto-édition. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site YouStory.fr. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Pour cet épisode, je reçois la romancière Valentine Gobi, que vous connaissez peut-être grâce à des romans comme Murène ou encore grâce à L'Île Haute. Mais aujourd'hui, on se rencontre à l'occasion de Devenir Montagne, un livre d'entretien qu'elle a donné avec Fabrice Lardreau, publié aux éditions Artaud. Un recueil de leur conversation où il est naturellement question du rapport qu'entretient l'autrice à la montagne, mais pas seulement. Elle y livre aussi des souvenirs d'enfance et par extension quelques coulisses d'écriture qui m'ont beaucoup intéressé. Alors avec Valentine Gobi, on a parlé ensemble du corps, un levier important dans l'acte d'écrire pour elle, de cette lignée de parfumeurs dont elle est issue, ou encore de la manière dont elle est arrivée à l'écriture pour la jeunesse. Bonne écoute. Bonjour Valentine Gobi.
Bonjour Thomas.
Bon, alors j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais je vais le redire au cas où, nous sommes dans un café. Je pense que vous qui nous vous écoutez, vous l'avez compris, mais sait-on jamais. Il est possible qu'il y ait un peu de bruit, un peu de vie, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude et c'est un peu pour me dédouaner que je le dis, mais c'est dit. Il y a quelques mois, années, je sais pas, j'ai reçu l'écrivaine Cécile Coulon derrière ce même micro, ça commence à faire quelques temps, pour un bouquin qui est paru dans la même collection que le vôtre, qui s'appelait Le Pied-à-Terre. Et aujourd'hui, on est évidemment là pour Devenir Montagne. C'est à votre tour, disons, de vous livrer à Fabrice Lardreau. Alors, partons d'une question très, très simple, très concrète. Comment ça s'est passé avec Fabrice Lardreau? Comment les entretiens se sont organisés?
Alors, très concrètement, Fabrice Lardreau, en tant que journaliste, avait lu mon dernier roman, L'Île Haute, et a proposé de réaliser un entretien pour la revue Montagne et Alpinisme. Et c'est dans ce cadre que je l'ai d'abord rencontré. Ouais. Et en fait, cet entretien qui devait servir à produire un article a duré beaucoup, longtemps.
Parce que vous aviez beaucoup de choses à dire ou qu'il était assez intéressant pour vous poser des bonnes questions?
Probablement les deux. Peut-être que c'est une rencontre.
Ouais,
voilà.
Finalement.
Et donc, moi, je ne connaissais pas du tout cette collection. Et il m'a recontacté en m'évoquant en fait la possibilité d'essayer de construire quelque chose ensemble autour de cette relation entre la montagne et l'écriture.
Ouais.
Et ça m'a tout de suite beaucoup intéressée. Et on s'est retrouvés à différents endroits, dans des cafés. On s'est aussi retrouvés chez Actes Sud, parce que c'est calme.
Qui est votre éditeur
C'est mon éditeur, tout à fait.
Votre éditeur.
Absolument. Où la plupart de ses entretiens ont été réalisés. C'est vrai qu'il avait déjà une matière qui était assez dense. On n'a pas commencé du point zéro,
ouais.
Puisqu'on s'était rencontrés autour d'un livre qui évoquait déjà la montagne et qui avait été le sujet d'un certain nombre de questions sur l'écriture déjà.
Ouais. Alors justement, Montagne, est-ce qu'on peut déjà parler de ce titre, Devenir Montagne, qui, je crois, pourrait faire un peu écho aussi à votre précédent roman adulte, que vous venez de citer, qui s'appelle L'Île Haute, qui apparaît en 2022.
C'est ça.
Il me semble. D'où il vient ce... Ou plutôt, qu'est-ce qu'il veut dire peut-être, ce titre?
Alors, il veut dire aussi ce qu'on y projette, hein, bien
ouais,
entendu.
Bien sûr.
Est-ce que le lecteur y projette? C'est un livre qui parle de l'écriture dans sa dimension organique et de la manière dont elle nous relie au milieu, au vivant, au monde dans lequel on vit. Pour moi, l'écriture, c'est d'abord un objet sensoriel que j'essaye de déployer en utilisant tous mes sens, puisque j'ai vraiment cette perception extrêmement aiguë, qu'on est d'abord des corps qui sommes au monde. Et donc, le milieu dans lequel moi j'ai l'impression d'avoir le corps le plus vivant a toujours été la montagne et continue à l'être. Et il y a une relation très forte entre être un corps et écrire, être encore dans la montagne et écrire. L'écriture, c'est vraiment ce qui permet de mettre des mots sur des expériences sensorielles. Et paradoxalement, c'est aussi ce qui nous sépare du sensoriel, puisque pour pouvoir écrire, il faut objectiver sa matière, c'est-à-dire oui, s'en séparer.
Et en plus, il y a un temps long, il faut tirer un fil de pensée. Enfin, c'est quelque chose qu'on pourrait presque opposer, finalement.
Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois immergé et en dehors.
Ouais.
Et en fait, ce devenir montagne, c'est cette espèce de désir fou, en fait, de fusion, de dissolution, qui est en même temps une façon de saisir l'expérience de la manière la plus précise possible. C'est tout le paradoxe, en fait, de l'écriture. Être à la fois dedans et dehors, appartenir et s'extraire.
Ouais. Et alors, justement, je voulais précisément maintenant parler du corps, donc félicitations. déjà, vous vous employez dès les premières pages, j'ai un rapport viscéral à la montagne. Viscéral, ça fait concrètement référence au corps. Donc, on est tout de suite un peu plongé dedans, mais dans tous vos livres, de manière générale, il est beaucoup question d'un corps qui, je sais pas, qui vit, qui se transforme, qui se limite, qui s'autorise, qui est là. Et moi, je me posais cette question qui rejoint ce qu'on vient de se dire. Quand vous écrivez, vous, où est-ce qu'il est votre corps? Est-ce que vous transpirez? Est-ce qu'il n'existe plus? Comment vous vous placez par rapport à cette question de votre corps?
J'écris beaucoup à partir d'expériences physiques qui semblent ne pas être les miennes. Avoir les bras coupés, voilà. Avoir les bras coupés, avoir été déporté dans un camp de concentration, la maladie, la jouissance, l'avortement. Il y a des tas d'expériences, en fait, qui peuvent me sembler, ou qui peuvent sembler aux lecteurs étrangères, mais que moi, je réinvestis à partir de ma propre expérience. Donc, le matériau, il est très vivant et très présent au moment où j'écris. Et la mise en situation, pour moi, est nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre ce que j'écris et la matière elle-même de mon corps. Et en même temps, sans objectivation, il n'y a pas de forme. L'écriture, c'est une forme. Donc, je fais des allers-retours permanents, en fait, entre le réveil, en fait, de toutes ces sensations, ces expériences, la volonté de m'y raccorder. Quelquefois, je fais vraiment, d'ailleurs, j'ai un protocole, quoi. Je veux dire, quand j'ai écrit Murène, avec ce personnage amputé des deux bras, ça se passe dans les années 50. Il n'y a pas de kinésithérapie, il n'y a pas d'ergothérapie. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Et quand j'ai demandé...
Un peu plus que prévu, d'ailleurs.
Pardon, oui.
Peut-être un peu plus que prévu.
Oui. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais on ne peut pas vous aider, en fait, à imaginer comment ce corps se remet en mouvement après son accident. Puisqu'à l'époque, on ne disposait absolument pas des techniques qui existent aujourd'hui. Donc, il va falloir que vous traversiez vous-même cette expérience. Donc, je le fais, je suis en immersion, mais dans le moment même de l'écriture, il faut que je m'en extraie. Par exemple, pour l'île Haute, j'ai passé une semaine, toutes les trois semaines, en montagne, dans cette vallée précisément, à traverser les saisons. Mais pour écrire, je revenais à Asnières-sur-Seine, au 11e étage, dans mon appartement, pour que cette matière puisse devenir une glaise à modeler. Et donc, il y a des allers-retours très forts, mais ça m'éprouve physiquement, l'écriture. Ça m'éprouve absolument, oui.
En parlant d'être éprouvé, on ne se connaît pas, mais je crois que vous avez des problèmes de tendinite assez fréquents.
Oh, si c'était que ça.
Bon, et de dos, mais ça, on l'a déjà dit tout à l'heure.
Selon le radiologue, une colonne vertébrale de parachutiste de 85 ans. Je n'ai jamais fait de parachute et j'en ai 49, ce qui veut dire qu'il y a un peu de travail quand même.
Il y a un petit décalage. Bon, écoutez, on va faire en sorte que ça soit OK aujourd'hui. Et je crois qu'il vous arrive de dicter des choses, genre des listes, des choses. Pour quelle raison est-ce qu'il vous est impossible de le faire pour l'écriture qu'on va appeler l'écriture littéraire? Parce que précisément, cette écriture fait appel au corps.
Oui, ça c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a que le corps est vraiment en jeu dans l'écriture.
Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire?
Absolument. Okay. Oui, c'est vrai, mais alors, ça n'est pas vrai pour l'écriture littéraire. Ouais. Je dicte des mails, je dicte
des
messages.
Listes, je sais pas quoi, peu importe.
Ce qui me permet de justifier tout de suite le nombre de fautes incalculables qui apparaissent, sachant qu'en plus, les dictaphones corrigent eux-mêmes la phrase avec un dictionnaire Google qui n'est pas du tout mon registre à moi. Voilà. Mais l'écriture littéraire, c'est vraiment un geste. Moi, j'écris pas avec un stylo, j'écris vraiment sur un clavier. C'est trop pénible, justement, le stylo, le rapport à la feuille. Il y a un frottement, en fait, qui muse vraiment physiquement. Le clavier est beaucoup plus souple. Et puis, le clavier, surtout, offre une possibilité vraiment extraordinaire, c'est de déborder le cadre de la pensée. C'est-à-dire que quand on pense, quand on écrit à la main, comme c'est lent, il faut penser sa phrase. Tandis que quand on écrit avec un clavier, on peut avoir déjà une forme en tête, mais la vélocité des doigts sur le clavier génère de la surprise et de l'inattendu, qui n'est pas moins une vérité extirpée du plus profond de soi. Et ça, pour moi, c'est aussi de l'écriture. Ça ne veut pas dire que ça reste tel quel. Moi, je retravaille des centaines de fois les mêmes phrases. Quelquefois, quand j'écris une phrase par jour, j'en suis toujours pas contente. Mais il y a un jaillissement qui est vraiment permis par cette vélocité-là. Tandis que quand vous dictez une phrase, si vous en faites l'expérience, il faut absolument que vous la pensiez dans sa forme avant. Sujet, verbe, complément, ponctuation. Ouais. Et donc, il y a une espèce de contrôle, en fait, sur la phrase, sur la forme, qui est aussi un empêchement. Et donc, dicter des phrases de littérature, pour moi, c'est impossible. Dicter des notes, oui, absolument, ça je le fais beaucoup. Ouais. Mais ça n'est pas la forme qui sera adoptée après. Je sais que certains écrivains le font. Il me semble que Yann Kefelec dicte beaucoup à des personnes extérieures, en plus. Donc, il y a en plus une médiation. Ouais. Par le corps d'un autre, pour moi c'est impossible en fait.
Ouais. Il y avait Maryse Condé aussi, elle vient de nous quitter.
Oui.
Et je crois qu'elle dictait précisément à une autre personne ses derniers bouquins, en tout cas son dernier. Bref, parenthèse. alors revenons un peu.
J'aime beaucoup être reliée à
Maryse Condé.
À cette dame, ouais, d'une manière ou d'une autre.
Je comprends. Et oui, revenons un peu à la montagne. Il y a ces problèmes de dos, enfin montagne et corps du coup. C'est problème de dos que seule la marche, en l'occurrence en montagne, semble pouvoir calmer. Est-ce que ça influence votre pratique de l'écriture ?
Alors, je pense que beaucoup d'écrivains marchent et écrivent en marchant, en fait.
Ouais, bah Cécile Coulon, typiquement, c'était un peu le socle du bouquin.
Ça se délie, en fait, beaucoup. Ça se délie beaucoup, parce que tout d'un coup, on n'a plus cette obstination visuelle de la phrase, de la feuille. Et l'écriture devient davantage une matière musicale et sonore. Et en effet, il peut se produire des ouvertures, des résolutions qu'on n'attendait pas. Après, tout simplement, écrire dans la douleur, c'est plus compliqué qu'écrire quand on a pas mal, puisque toutes ces forces, on peut les concentrer en effet sur la phrase. Alors, je ne peux pas taper à l'ordinateur en même temps que je marche.
Peut-être bientôt, mais pour l'instant,
C'est très complexe. En revanche, alterner l'écriture et la marche, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que je passe le plus de temps possible à la montagne et que je m'octroie des périodes où, sans être forcément à la montagne, parce que c'est tout de même loin d'Asnières, je suis dans des environnements où je peux marcher et écrire à différents moments de la journée. Et je compense l'un par l'autre en permanence.
Est-ce que c'est la montagne qui a fait de vous la marcheuse que vous êtes, ou vous l'étiez déjà ?
C'est difficile à dire, mais je pense que j'ai grandi près de la montagne et que la question s'est jamais posée. En fait, on a toujours marché avec mes parents, en famille. Après, moi, j'en ai fait vraiment une espèce d'obsession personnelle, mais ça a fait partie, en fait, de ma vie depuis si petite que ça n'a jamais été une décision, en fait, de marcher.
Okay. Bah justement, ça, c'est une espèce d'obsession, vous dites. Est-ce que consacrer un livre à la montagne, disons, l'île haute, ça a modifié le rapport que vous aviez avec elle ? Peut-être précisément de vous y immerger au fil des saisons.
C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a d'autres images qui ont jailli dans ma vie et qui ne sont pas celles de mon enfance. Alors, j'en parcours beaucoup des montagnes, mais j'y reste pas. Tandis que cette vallée-là, qui était une vallée d'écriture, c'est une vallée où je retourne beaucoup aujourd'hui, pour laquelle j'ai un attachement extrêmement fort, et pas seulement au paysage, et pas seulement à la lumière, et pas seulement aux saisons, aux couleurs, et aux activités, on va dire, que j'y pratique, mais aux gens. C'est-à-dire que c'est devenu une vallée d'amitié, donc une vallée de vie, dans laquelle je retourne sans le moindre projet d'écriture, simplement parce qu'elle me nourrit. Et donc, il y a peut-être de ça aussi dans le titre de Devenir montagne, c'est qu'à un moment, la question qui se pose, elle est presque d'ordre identitaire. C'est c'est ce vers quoi je vais, et c'est aussi une rupture vis-à-vis de mes héritages, parce que c'est la montagne de personne, celle-là, si ce n'est celle que j'ai choisie, d'abord pour écrire et maintenant pour grandir. Et là, il y a vraiment un chemin qui s'est nourri, bien entendu, de l'écriture de ce livre. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens, C'est comme ça que j'ai été adoptée aussi dans cette vallée. Mais aujourd'hui, c'est un besoin. Et c'est un endroit où je me sens chez moi, d'une certaine manière. C'est un lieu choisi.
Ce qui implique que les lions sont évidemment très importants dans votre vie, parce que là, je pense à ce souvenir que vous racontez dans le livre à Fabrice Lardreau de ce chalet que vous avez vendu à Alos.
Oui, c'était quand vous aviez 15 mes ans. Parents qui avaient.
Que, enfin, pas vous, du coup, oui, parce que vous aviez 15 ans, mais. Ce qui paraîtrait. Enfin, félicitations si vous vendez quelque chose à 15 ans, mais ça me paraît un peu
des
moins.
Des bonbons, peut-être.
Peut-être. Et du coup, ça implique évidemment, enfin, nécessairement, que les lieux ont une certaine importance, mais je me demandais quel rapport vous entreteniez avec la nostalgie. Est-ce que c'est quelque chose qui...
J'ai pas du tout le sentiment de la nostalgie. Je crois que ma... Justement, en fait, je me suis beaucoup construite dans la rupture et il est assez récent que je reconnaisse des héritages. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu besoin de me démarquer. J'ai grandi dans un milieu qui est celui de la parfumerie grassoise.
C'était la prochaine, mais vous êtes... c'était exactement ce que j'allais dire après.
Ah, voilà, les deux questions sont liées.
Hein, ouais,
c'est-à-dire que j'ai un arbre généalogique qui est assez imposant, avec des personnalités très fortes, ancrées non seulement dans un territoire, mais dans une industrie.
Ouais.
Et où avoir un nom de famille, ça signifie forcément être toujours la fille, la nièce, la cousine de quelqu'un. Et on est rarement soi, on n'a pas beaucoup de prénoms. Et je crois qu'il y avait quelque chose de flatteur à être relié aussi à cette histoire, mais aussi quelque chose d'un peu étouffant et écrasant. Et quand j'ai eu 12 ans, mon rêve, très fantasmé probablement, mais bien réel, et puis il s'est accompli, c'était d'aller à Paris, de vivre à Paris. Et Paris, c'était pour moi l'altérité totale. C'était la ville, c'était la foule, c'était la diversité, c'était loin, c'était le Nord... Et ça incarnait pour moi tout de suite une possibilité d'être quelqu'un d'autre ou bien d'être moi-même. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs contradictoire.
Ouais,
d'échapper à des assignations, voilà. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai aussi hérité d'un rapport au monde, et notamment à la matière première, à travers les métiers de mes parents, qui est un cadeau avec lequel je travaille dans mon écriture. C'est assez récent, en fait, que j'en ai conscience.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelque part un livre qui vous attend ? Un sujet, un personnage, une époque, un lieu ?
Vous voyez, vous aussi, vous arrivez à la prochaine étape de ma vie. Oui, ça me travaille beaucoup. Oui. Ça me travaille beaucoup en ce moment.
On n'en dira pas plus.
On n'en dira pas plus.
On n'en dira pas plus. Très bien. En parlant de ça, est-ce que vous écrivez des livres que vous aimeriez lire ? Est-ce que vous seriez une lectrice de vos livres ?
Okay. Oui, bien sûr.
Au-delà des sujets vous intéressent en tant qu'écrivaine.
Oui,
certes,
alors lis beaucoup d'autres choses aussi, c'est ça que je veux dire.
J'espère que vous ne lisez pas que vos livres, bien sûr. Mais...
Non, mais c'est surtout que je suis capable d'adhérer à des écritures radicalement différentes de la mienne et qui m'ouvrent des portes, des univers, des esthétiques qui me remettent en question et qui aussi, tout simplement, me font prendre conscience aussi de mon propre travail. Donc... Mais oui, j'ai envie d'écrire les livres que j'aimerais lire.
Ouais. Et vous lisez vos contemporains précisément ou
Oui, bien sûr.
Ouais, ouais. C'est pas sûr. Parce que je crois savoir qu'il y a certains écrivains, certaines écrivaines qui n'aiment pas lire leurs contemporains par peur de se comparer, de faire moins bien.
Oui, mais se comparer, c'est très important.
Je trouve aussi.
Ça veut pas dire d'ailleurs s'annihiler ou être en position de concurrence. Mmh. C'est une nourriture qui me semble... Absolument nécessaire. Alors, je lis aussi des 19e-istes et ce qu'on appelle des classiques. Mais enfin, s'ils sont classiques, c'est justement parce qu'ils ont traversé le temps et qu'ils ont toujours, à nous apprendre en termes de forme et aussi de rapport au monde. Mais bien sûr, je lis mes contemporains et mes contemporaines. Oui, oui.
C'est qui, Madame Baldini ?
Madame Baldini.
Qui est cette personne ?
C'est ma professeure de français
dont vous parlez,
de 5e.
Dans le livre.
C'est la première qui m'a prescrit des livres comme on prescrit des médicaments,
ouais.
Mais sans savoir... Enfin, je n'étais pas malade, mais j'étais en manque, je pense, de quelque chose. C'est-à-dire que mes parents n'étaient pas forcément de grands lecteurs.
Okay.
Et donc, on n'avait pas de discussion autour des livres. Ce n'était pas ça, le lieu de l'échange. Il y en avait beaucoup d'autres... qui passait notamment beaucoup par le corps.
Ouais.
Et ça, c'était très beau. Mais la littérature, ça a été le territoire de ma relation avec les profs, quoi. Moi, j'ai aimé l'école parce que j'ai aimé mes profs, parce que mes profs m'ont emmené dans des endroits, dans des pensées, dans des univers que jamais j'aurais eu la possibilité de fréquenter s'ils ne m'avaient pas prescrit des livres. Et Madame Baldini, c'est une femme très discrète, très mal aimée, je pense, de ses élèves à l'époque, parce que elle ne faisait rien pour séduire, en fait. Elle était vraiment une professeure très, très engagée dans son travail, mais à l'ancienne, quoi. Donc, ouais. Qui donnait beaucoup de devoirs. Elle avait très peu d'autorité, mais moi, elle m'a donné à lire Le Grand Maulne, elle m'a donné à lire les auteurs naturalistes, elle m'a donné à lire Le Parfum.
Oui, j'ai sauté cette question, mais Le Parfum de Patrice Susskind.
Et d'ailleurs, je crois que je le dis dans Devenir
oui,
Montagne, ça a été pour moi
parle, ouais.
une drôle de découverte. À rebours, j'ai réalisé que le parfumeur chez lequel Jean-Baptiste Grenouille est apprenti
ouais.
à Paris s'appelle Baldini. Et à ah l'époque,
oui,
ça m'a totalement échappé.
Oui.
Et c'est en préparant ces entretiens que je relisais Le Parfum et je me suis dit, mais c'est extraordinaire en fait. Je ne sais pas si elle-même l'a pensé, mais c'est l'apprenti de Jean-Baptiste Grenouille qui devient ce parfumeur. Extraordinaire et maléfique en même temps,
ouais.
mais moi j'ai eu une maîtresse formidable. Mais alors tous les professeurs de français qui ont suivi ont compté pour moi, même
ouais,
les
ouais,
plus, même les plus
parlez,
durs
mais...
d'ailleurs, ils ont toujours été vraiment pour moi des passeurs et des guides.
Ouais. Ouais. Et l'apprenti de Madame Baldini et des autres est devenue écrivaine, pas mal. et alors je me posais cette question, est-ce que, parce que là on parle d'écriture, on parle de lecture, on parle de montagne, mais est-ce qu'il vous arrive d'écrire sans attendre de résultats ? On oublie les listes, on oublie les notes, mais d'écrire des nouvelles, des romans, de la fiction.
Sans attendre de résultats, c'est-à-dire sans attendre de publication ?
Ou de lecteur ?
Non. En fait, j'ai jamais écrit de journal intime, par exemple.
Par exemple, ouais.
Je n'ai pas de réserve dans mon ordinateur. Il arrive
ouais.
qu'on me dise... Tiens, telle revue cherche
ouais.
des auteurs pour
une nouvelle.
Ou pour... Alors, il y a une thématique souvent. Et en fait, moi, j'ai aucune réserve. Et
vous avez théorisé ça ou...
Non.
C'est
alors, depuis
ça.
Le plus jeune âge, j'ai écrit vraiment très, très jeune. Enfin, j'ai commencé à écrire dans ma tête
ouais.
déjà. Et ensuite, quand j'ai appris à écrire physiquement,
ouais.
ce que j'ai trouvé justement extraordinaire, c'est que je pouvais arrêter de mémoriser toutes les phrases que je composais. Et que je n'avais pas d'autre choix que de retenir pour pouvoir les partager.
Ouais.
Et en fait, mes histoires se sont étendues du fait que ma mémoire s'est devenue le papier. Et tout d'un coup, j'ai pu, au lieu simplement de réciter quelques phrases, j'ai pu tendre un papier aux gens que j'aime, puisque c'est d'abord avec ce qu'on aime. Quand on est enfant, on a envie d'être approuvé, en fait. C'était de l'approbation que je cherchais, bien
c'est
entendu.
C'est pas une mauvaise raison.
Mais ça veut dire qu'on a des lecteurs. Alors on a d'abord des lecteurs bienveillants, et puis quand on commence à prendre des risques, quand on fait lire à des copains, quand on fait lire à des incites et à des profs, on commence à avoir un regard critique. Mais justement, je crois que j'ai... Ayant découvert que l'écriture, c'était avant toute chose une matière à partager, j'ai jamais cessé d'écrire en cherchant le lecteur. Mais j'ai jamais pensé à publier avant que des amis m'en lancent le défi
ça s'est fait comme ça.
La fin de ma vingtaine. Oui, moi,
c'était pas un rêve.
La publication éditoriale n'était pas du tout dans mon esprit parce que, tout simplement, je ne viens pas d'un environnement où on rencontre des auteurs, des libraires, des éditeurs.
Oui, mais je suis tentée de vous dire que vous n'êtes pas de Paris et c'était votre rêve.
Eh bien, oui, mais j'avais une grand-mère, par exemple, à Boulogne-Billancourt.
Okay.
Donc,
oui,
Paris,
ouais.
j'y venais en touriste, avec beaucoup d'émerveillement, dès mon plus jeune âge.
Ouais.
Et c'était un endroit qui m'attirait beaucoup. Tandis que, en fait, j'ai découvert Paris vraiment pendant mes études, quand j'ai fait Sciences Po. Et Sciences Po, c'est aussi le quartier des éditeurs. Et c'était plutôt écrasant qu'encourageant pour moi.
Je veux dire,
Sciences Po voisinait avec Gallimard. Moi, j'ai jamais imaginé être publié chez Gallimard. C'est pourtant ce qui m'est arrivé.
Oui, dès les premiers.
Mais je n'ai pas cru une seconde à une réponse positive quand j'ai envoyé mon premier texte, un petit peu, voilà, comme un pari que je voulais pas regretter de ne pas avoir fait, mais vraiment sans y croire.
Et la jeunesse là-dedans, parce que vous êtes également écrivaine jeunesse, comment elle est arrivée ?
Alors, c'était pas un désir, c'était d'accord. Un peu fortuit. J'étais pas encore prof, parce que j'étais 10 ans prof au collège, ouais. Et souvent, on me demande s'il y a un lien, en fait, entre le fait d'enseigner et d'avoir écrit pour des jeunes qui, finalement, avaient l'âge de mes élèves.
La transmission, peut-être.
Mais alors, ça a peut-être renforcé ce que j'ai entrepris avant, mais au départ... moi, je viens de l'humanitaire. C'est ma première vie, c'était 3 ans dans l'humanitaire. Et quand j'ai publié mon premier livre, j'ai eu envie que l'écriture puisse participer à du collectif aussi. Ouais. Et je savais pas comment m'y prendre, mais j'ai rencontré des auteurs, plutôt jeunes auteurs, mais d'autres nous ont rejoints, qui étaient d'accord pour tenter une expérience et de faire d'écrire des recueils collectifs. Avec une thématique, Gallimard ayant accepté de les publier sans en retirer du profit, ouais. Et dont les ventes seraient remises à les droits d'auteur issus des ventes seraient remis à une association ou à une cause. Et donc on a fondé une association qui s'appelait L'écrit du cœur, et plusieurs recueils comme ça de nouvelles sont parus chez Gallimard, qui a tout de suite en fait signalé que si on voulait que ça ait un petit impact, il fallait s'adresser à la jeunesse. Parce que c'est okay. La jeunesse qui est
de
généreuse
manière tout à fait
et prescriptrice.
Simple, en fait. Okay.
C'est comme ça que je me suis mise à écrire pour la jeunesse. Et puis ensuite, j'ai été sollicitée par Bayard Press, Je bouquine, pour écrire un roman dans un numéro. Ouais. Et puis ce roman a été publié ensuite en livre par Gallimard. Ouais. Et puis comme c'était un livre qui évoquait l'immigration, j'ai été contactée par Autrement Jeunesse pour écrire toute une série de 12 livres de fiction documentée sur l'immigration. Suite à quoi, je me suis mise à avoir mes propres projets et à ne pas seulement répondre à de la commande.
Oui,
mais je continue quand même à répondre à des commandes, parce que je trouve que c'est des défis qui sont très intéressants. En jeunesse, comme il y a des collections, il arrive souvent que les auteurs soient sollicités. Et pas seulement qui proposent des projets, oui, pour rentrer dans une dynamique qui est plus vaste en fait que leur propre travail.
Et potentiellement qu'à la manière d'un Olympien, ça vous stimule un peu cette contrainte de.
Ah, c'est
pas,
très stimulant, bien sûr.
Quoi.
Tout à fait. Oui, ouais. Oui.
J'allais vous demander si vous aviez des projets en ce moment, mais de toute évidence, oui, mais non. Enfin, on n'en parlera pas. Alors, je vais me contenter de vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ?
Alors, j'ai envie de vous parler de cinéma.
Parlons cinéma.
De deux films, on va dire, qui ouais. m'ont vraiment beaucoup impressionnée récemment. Little Girl Blue.
De Mona Hachache.
De Mona Hachache, absolument, avec Marion Cotillard, qui habite le film d'un bout à l'autre. Je crois que j'ai jamais vu une performance d'actrice aussi extraordinaire. Alors, c'est soi-disant un documentaire. Mais la forme, l'invention, la créativité extraordinaire de la scénographie, l'inclusion des vidéos, le travail sur la photo et la métamorphose, parce que ça, c'est vraiment un des sujets qui m'intéresse et sur lequel je travaille dans mes romans, mais ouais. La métamorphose en direct de Marion Cotillard en la mère de Mona Hachache est stupéfiante et soulève des émotions absolument... inédite pour moi, donc pour moi c'est le chef-d'œuvre cinématographique que j'ai vu depuis des années.
Génial.
Quoi. C'est un pari fou, complètement
ouais,
fou,
c'est un objet
scénaristiquement
fou aussi, c'est...
incroyable. Enfin voilà, je suis très très admirative. Et il y a un autre film qui est plus ancien, mais que moi je viens de découvrir, donc pour moi il est nouveau.
Alors c'est super.
Qui il me semble, alors je sais plus si le titre français c'est La Croisée des Vents, Crosswinds. Ça y est, le réalisateur m'échappe. C'est un premier film
okay.
Qui est très très étonnant aussi. Alors, je l'ai vu parce que ayant regardé la zone d'intérêt au cinéma,
ouais,
le travail sur l'image et l'image non vue, celle qu'on ne voit pas, est très interroge beaucoup puisque c'est ce qu'on ne voit pas en fait. Qui compte.
Oui.
J'avais beaucoup mis ça en relation aussi avec Le Fils de Saul, qui est un film dans lequel. Alors je peux pas donner le dispositif ici parce que ça va gâcher la surprise de ceux qui ne l'ont pas vu, mais le dispositif et le rapport à l'image, en fait, est extrêmement impressionnant. Et ça parle aussi de la Shoah.
Okay.
Et là, il s'agit de la déportation des populations des pays baltes sous Staline. On est au début des années 40. Mmh. Et c'est une succession de tableaux vivants. En fait, il n'y a pas de mouvement. C'est un film qui filme des tableaux, mais les tableaux sont incarnés par des acteurs immobiles. Et okay. la seule indication qu'on ait dans du vivant, c'est un foulard qui bouge, c'est un bas de jupe soulevé par le vent, c'est une herbe qui se couche. Et ça interroge beaucoup le rapport du récit à l'image fixe.
Bah ouais,
et c'est d'une beauté absolument stupéfiante. Voilà, je trouve que ces films-là, dans la forme, ouvrent des perspectives vraiment neuves.
Oui, tout ce que vous venez de citer.
Et
oui.
En même temps, très incarnés, c'est-à-dire ne sont pas uniquement des dispositifs cérébraux. Et j'ai, voilà, ça fait partie des grands, grands plaisirs que j'ai eus récemment.
Trop bien. Et alors, Crosswind, La Croisée des Vents, c'est de Marty Helde.
Voilà, excusez-moi. C'est un premier film, je n'ai pas retenu.
Merci beaucoup, Valentine Gobi.
Merci à vous.
Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.